De vous savoir fidèle au rendez-vous et merci d'écouter ce magazine qui interroge, vous le savez, ce qui pense le monde. Dans son célèbre livre écrit en 1967, La société du spectacle, Guy Debord écrit ceci. Toute la vie des sociétés dans lesquelles règnent les conditions modernes de production s'annonce comme une immense accumulation de spectacles. Tout ce qui était directement vécu s'est éloigné dans une représentation. Et François Jost, notre invité ce dimanche, estime lui que dans cette représentation, cette société du spectacle, la méchanceté occupe une part de plus en plus importante. À l'heure actuelle, la méchanceté est l'attitude la mieux partagée par la presse, la télé-réalité, les chroniqueurs des émissions, les internautes, les médias, écrit-il, dans le livre qui va être au centre de notre conversation, La méchanceté en acte à l'ère numérique, publié au CNRS Éditions. Voici donc un nouveau numéro d'idée, une émission que vous pouvez aussi retrouver sur l'application Pure Radio RFI et le site de la radio RFI.fr. Bonjour François Jost.
Bonjour.
Je suis ravi de vous accueillir à ce micro. Nous avions parlé il y a quelques années de cela, des séries américaines. Je rappelle que vous êtes sémiologue, sociologue, professeur émérite à la Sorbonne Nouvelle et fondateur d'un centre dont j'aimerais que nous disions un mot tout de suite, le Centre d'études sur les images et les sons médiatiques.
Oui, c'est un centre qui a été créé maintenant il y a 22 ans pour analyser les images et les sons en tant qu'elles sont médiatiques, c'est-à-dire non pas comme on le fait d'un point de vue purement esthétique, par exemple sur ce que signifient les images et les sons, mais quels sont leurs usages dans le monde des médias. Et on a beaucoup travaillé sur la télévision. On a essayé d'accompagner en fait cette chose extraordinaire qu'on a en France, qui est le dépôt légal de l'audiovisuel, qui permet aux chercheurs de voir des millions d'heures de télévision et de radio.
Ah, c'est vrai qu'il faut saluer notamment le travail de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, qui est sans équivalent.
Il n'y a pas d'équivalent, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a d'avoir une possibilité d'avoir une mémoire, et beaucoup de pays en manquent et sont soumis à une écriture de l'histoire qu'ils ne peuvent pas vérifier finalement.
Alors ce qui est intéressant, et vous en faites partie, c'est qu'il y a des chercheurs qui étudient ce monde de l'image, ce monde de ce qu'on appelle l'audiovisuel.
Ben oui, c'est
toutes ces facettes.
C'est un objet qui parfois semblerait un mauvais objet, c'est-à-dire que c'est beaucoup de gens méprisent la télévision, les médias, alors que
oui, ça fait mauvais genre de regarder la télévision.
Ça fait souvent mauvais genre, oui. Et même dans l'université, je peux vous dire que c'est encore assez difficile. On est bien habitué au cinéma, mais la télévision, c'est plus difficile, d'autant plus que c'est un média qui est déjà pensé comme ancien par certains chercheurs qui s'intéressent à Internet comme si Internet n'avait aucun rapport avec ce qui l'a précédé. Ce qui est évidemment totalement faux, dès que c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce livre justement. Ouais. C'est de montrer qu'il y a toute une généalogie qui part de la télé pour arriver aux réseaux sociaux.
Il est vrai, François Jost, que les plus jeunes regardent Internet maintenant plutôt que la télévision. On regarde la télévision via Internet aussi.
Alors c'est ça.
Tout est mêlé.
C'est ça. C'est-à-dire qu'ils regardent, comme vous dites, la télévision via Internet. C'est-à-dire qu'ils ne sont beaucoup d'études montrent qu'ils ne savent plus qu'ils regardent la télé. C'est-à-dire que
comme la radio, comme la radio. Ils savent plus qu'ils écoutent la radio parce qu'ils écoutent ça sur leur téléphone, c'est et ça. Non plus sur une radio.
C'est ça. Il y a une sorte de d'effacement, de fusion des médias qui fait que en fait 93% des vidéos qui sont regardées sur Internet sont des vidéos de télé, mais les plus jeunes n'en ont pas conscience.
Ouais. Alors avec vous, on va parler de la méchanceté avec le recul qui est le vôtre, hein, de d'années d'observation de l'évolution de la télévision, et Dieu sait si elle a beaucoup changé ces dernières décennies, et avec au cœur de ce travail un thème qui me semble vraiment passionnant, hélas la méchanceté, qui d'apparence, d'évidence, on va le voir dans l'émission, et on le lit dans votre livre, se développe. sur le petit écran.
Alors c'est vrai que
et sur Internet d'ailleurs.
C'est vrai, le terme de méchanceté peut paraître un petit peu vieillot, un peu enfantin même, dire quelqu'un qui est méchant, etc.
Pourtant c'est une réalité.
Mais d'une part c'est une réalité, d'autre part, dans ce livre, je lui donne après plusieurs mots, plusieurs autres équivalents, comme la ménisance, la cruauté, le sadisme, jusqu'à la haine, qui est évidemment importante, s'agissant notamment de haine raciale. Elle a plusieurs déclinaisons, cette méchanceté.
Alors je lisais récemment une interview de Marcel Gauchet, le philosophe Marcel Gauchet, qui s'interrogeait sur le fait de savoir si cette méchanceté qui se manifeste sur les réseaux sociaux, sur Internet, même à la télévision, dans certaines émissions, n'était pas aujourd'hui le seul moyen de se défouler pour le peuple, entre guillemets, ou est-ce que il se demandait aussi si cette méchanceté, cette haine, même parfois sur les chaînes de télévision, par exemple, n'est pas le prélude à une méchanceté qui se développerait autrement plus tard sous forme de carrément de guerre civile, par exemple.
La dernière phrase de mon livre va un tout petit peu dans le sens, puisque je dis que finalement toutes ces manifestations de la méchanceté, c'est la poursuite de la lutte de classe par d'autres moyens. Effectivement, ce qu'on voit dans ces différentes manifestations de la méchanceté sur les médias, c'est le fait que il y a une sorte de populisme, on peut dire, c'est-à-dire que beaucoup de gens trouvent dans les réseaux sociaux la possibilité de s'exprimer qu'ils n'avaient pas avant, et donc de lutter contre ces fameuses élites qui sont au centre de beaucoup de discours politiques, aussi bien à gauche qu'à droite.
Et on verra que parfois cette supposée liberté de parole n'est qu'un spectacle proposé aux téléspectateurs via la télé-réalité, par exemple.
Oui.
Alors François Joss, pour bien qu'on comprenne ce dont il s'agit, on a pris quelques exemples. Écoutons d'abord un extrait d'une émission de télévision, On n'est pas couché, avec un duel entre Yann Moix, qui écrit et qui fait de la télévision, et une jeune romancière marocaine, Safia Azedine. On a enlevé les passages qui parlaient du livre en tant que tel, ils étaient très courts, pour ne laisser que ceci écouter.
Yann Moix, une dernière chose.
Oui, je vais pas vous mentir, je trouve ce livre d'une profonde médiocrité. Ce livre, pas vous, pas votre œuvre, ce livre précis, je ne vois pas du tout ce que vous voulez dire. Monsieur Brault, je vois ce qu'il veut dire, c'est mal fait, mais c'est clair. Vous, c'est mal fait, mais c'est pas clair du tout. Et très franchement, pour moi, ce livre est une sorte de chose informe que j'ai arrêté de lire page 55 parce que je suis retourné lire L'immoraliste d'André Gide.
Vous n'avez pas besoin d'être aussi méchant, je me souviendrai de vous.
Ah bon? Non mais vous savez... D'abord, les menaces ne sont pas des choses auxquelles...
Ah non, c'est pas une menace, non, vous n'avez pas compris, j'ai dit je me souviendrai de vous, c'est-à-dire...
Oui, je sais ce que ça veut dire.
Non, mais vous avez compris que c'est pas une menace.
Très bien.
C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être méchant à ce point avec quelqu'un. Je me souviendrai de vous, vous auriez été un tout petit peu plus sympa, on se souviendrait
de vous. Madame, si vous saviez à quel point il est difficile, comme exercice, de dire... En toute sincérité, ce qu'on pense d'un livre de quelqu'un, pas de vous, de votre livre, si vous saviez à quel point c'est désagréable à faire, et que je préfère, je préfère mille fois dire à Mathieu Amalric qu'il a du talent, que vous dire à vous que ce livre est raté, c'est pas quelque chose qui me plaît, je force ma nature en le faisant. Et ce que vous appelez méchanceté, c'est quelqu'un qui a le courage de vous dire sincèrement ce qu'il pense d'un livre, en vous laissant la liberté de ne pas être d'accord et de faire en sorte qu'il est isolé, que tout le monde pense la même chose que vous.
Je comprends.
Première chose. Et la deuxième chose, franchement, vous êtes peut-être gentil et moi méchant, c'est vous qui vous souviendrez de moi. Moi, je vous ai déjà oublié, je ne suis pas haineux, je suis haïssant. Demain, j'aurai oublié.
C'est un cas d'école, non, François?
Je connaissais pas ce son. Je trouve qu'il est terrible. Il est terrible parce que, évidemment, on entend tout un mépris du grand écrivain. Alors, je sais pas quelle est la date de ce...
C'est une émission qui remonte à septembre 2017.
D'accord. Donc oui, c'est assez récent. Il avait déjà été primé par un grand prix littéraire. Ouais. Donc ça rend son attaque d'autant plus dure. Mais pour moi, c'est très symptomatique d'une modification qu'il y a eu dans les médias. Parce que si on se rappelle ces émissions de talk-show dans les années 80, il y avait notamment Droit de réponse où tout le monde s'engueulait, ça allait dans tous les sens et il n'y avait pas vraiment de hiérarchie. Ici, on paye des gens qui sont réputé expert pour désinguer véritablement l'adversaire, et avec le public qui est dans le silence et qui est prié d'applaudir quand un point a été marqué. Donc là, on a une mise en spectacle, effectivement, de vous savez, René Girard disait que le mot krinein en grec veut dire juger, mais qui veut dire très vite condamné. Et là, on voit très bien comment c'est pas une critique qu'il fait, c'est une condamnation. Et c'est une condamnation au nom de quelqu'un qui sait ce que c'est que l'écriture. Christine Angot fait pareil, d'ailleurs, dans d'autres passages.
On va l'entendre un peu plus tard. Donc, il s'agit d'une arène, là, très clairement. Hein,
oui, c'est ça. Il s'agit d'une arène, mais qui est en même temps maîtrisée, hein, puisque elle applaudit à peu près quand on lui demande, et ou siffle quand on lui demande aussi. C'est vraiment terrible, je trouve.
Alors, François-Georges, on va essayer de comprendre, grâce à vous, comment on en est arrivé là, et parler de ce glissement que vous analysez dans le livre, ce glissement des années 60 aux années 80, et vous prenez comme symbole des années 60, là pour le coup, un journal, un magazine écrit, oui. Quel magazine dans son genre, Harakiri.
Oui, alors j'ai pris comme exemple le Harakiri qui est créé en septembre 1960 et qui est interdit en 1961. Donc j'ai étudié ces 11 numéros, quelque chose comme ça, de Harakiri. Quand j'ai étudié ça, j'avais le souvenir d'Harakiri comme un magazine un peu porno, très provocant, etc. Et j'ai découvert quelque chose que je ne connaissais pas en fait, et qui était très différent. C'est-à-dire que c'était un magazine, il faut bien comprendre, qui intervient pendant la guerre d'Algérie, qui est beaucoup plus politique que ce qu'on croit, c'est-à-dire qu'il peut paraître entre guillemets de mauvais goût, mais c'est véritablement une satire sociale qui s'en prend aux militaires.
Surtout aux militaires en particulier.
Beaucoup aux militaires, ouais. Mais aussi, vous savez,
À l'Église également.
À l'Église, parce qu'en 1960, il y a cette fameuse loi sur les fléaux sociaux qui condamne à la fois l'alcoolisme, la prostitution et l'homosexualité. Et donc, en fait, ces trois thèmes que Harakiri brocarde, avec lesquels il s'amuse, mais pour leur donner une sorte de légitimité, c'est-à-dire que il montre très bien que c'est une société très conservatrice dans laquelle on vit à ce moment-là, et qui arrivera d'ailleurs à cette explosion de 68 à la fin de la décennie. Y a un humour là qui se revendique comme bête et méchant. C'est pour ça que j'en suis parti, parce que la revue s'est appelée Bête et méchante à partir du 3 au 4e numéro. Et qu'est-ce que c'est que la méchanceté? En l'occurrence, c'est essentiellement soit la satire sociale, soit l'humour noir. L'humour noir étant défini comme quelque chose qui ne prend pas des têtes de turc, mais joue avec nos angoisses, nos peurs, nos tabous.
Et là, il s'agit d'une arme politique, car il s'agit d'une critique des puissants, enfin d'un gouvernement. Il ne s'agit pas de taper sur quelqu'un qu'on a invité dans un studio de télévision.
C'est ça.
Il s'agit d'un geste de presse, mais aussi d'un geste politique.
Absolument.
Charlie Hebdo, on pourrait parler de Charlie Hebdo.
Oui, peut-être plus que Charlie Hebdo, parce que c'est vrai que Harakiri, à l'époque, part presque toujours des médias dominants à l'époque, notamment comme le journal Le Quotidien François, qui vend 1,3 million d'exemplaires chaque jour, avec plusieurs éditions. Donc, en général, on part de nouvelles attestées, trouvées dans ces journaux pour les transformer en ridicules. Par exemple, je prends un exemple, un religieux se plaint que certaines danses sont très mauvaises, très vicieuses, qu'il faut les interdire. Alors, il y a toute une série de dessins qui tournent en ridicule cela par soit des dessins excessifs, soit des dessins minorant le phénomène. Enfin, et donc, on part de quelque chose qui est testé en immédiat pour s'en moquer.
Alors, il y a l'humour noir d'un côté, qui est une arme politique contre les puissants, avec Harakiri, puisque vous prenez cet exemple, François Chance, dans votre livre. Et il y a aussi cette société médiatique qui se développe durant les années 60, une société médiatique analysée par le fameux Guy Debord, que je citais tout à l'heure, dans la société du spectacle. Écoutons d'ailleurs un extrait de Guy Debord.
Le spectacle se présente comme une énorme positivité, indiscutable et inaccessible. Il ne dit rien de plus que « ce qui apparaît est bon, ce qui est bon apparaît ». L'attitude qu'il exige par principe est cette acceptation passive qu'il a déjà en fait obtenu par sa manière d'apparaître sans réplique, par son monopole de l'apparence. Le spectacle se soumet les hommes vivants dans la mesure où l'économie les a totalement soumis. Il n'est rien que l'économie se développant pour elle-même. Il est le reflet fidèle de la production des choses et l'objectivation infidèle des producteurs. Là où le monde réel se change en simples images, les simples images deviennent des êtres réels et les motivations efficientes d'un comportement hypnotique.
La voix inimitable de David Mort hein, pour ce livre, La Société du Spectacle, publié, je le dis, en 1967, en novembre 1967, pour être exact. Alors là, il parle d'acceptation passive, de monopole, de l'apparence. Au-delà de ces propos qui peuvent paraître aujourd'hui un peu vieillissants, il y a quand même toujours cette société du spectacle.
Ah, moi, je trouve que c'est encore très actuel et on voit, c'est très bien écrit, évidemment, la difficulté, c'est pas facile à lire, Guy Debord.
Non.
Il faut pas. Et on le réduit souvent à quelque chose d'un petit peu simple qui est, c'est la société du business, c'est la société du spectacle, etc. C'est pas du tout ça, évidemment. On l'entend très bien dans ce qu'il dit avec cette phrase qu'on peut appliquer parfaitement à notre réalité. Le réel se change en images et les simples images se transforment en réel. D'ailleurs, c'est lui qui est l'inventeur du mot politique spectacle, qui se trouve déjà chez Guy Debord. Et cette phrase est très intéressante parce que il montre le processus de déréalisation qui existe dans notre société, qui tient au fait que le vécu va se transformer en vue. C'est-à-dire que, bon, alors moi je l'utilise pour montrer par exemple que dans les documentaires, si vous voulez, vous avez une relation qui est fondée non pas simplement sur le simple visible, mais sur une fréquentation du réel. Parfois, Edgar Morin parlait de ces reporters qui, comme des scaphandriers, se plongeaient dans le réel pendant des mois, puis faisaient, à la fin de leur immersion, faisaient un film. Aujourd'hui, à partir des années 80, on fait venir les gens pour parler d'eux en studio, et non plus chez eux sur leur propre terrain. On les fait venir en studio, et donc ils vont montrer de leur vie uniquement ce qui est visualisable. Et non seulement ils vont montrer ce qui est visualisable, mais ils vont accepter de venir dans le studio comme un spectacle. C'est-à-dire qu'ils se donnent réellement, et ils se donnent en spectacle. Donc, c'est le début de tout un processus qui part là, qui va continuer avec la télé-réalité et qui va aboutir à cette espèce de réalité égocentrée que sont les réseaux sociaux.
Alors vous voyez, j'ai ressorti ma petite société du spectacle, sa version de poche. Et il dit aussi, et vous relevez cette phrase, François Joss, dans le livre, dans votre livre, le spectacle n'est pas un ensemble d'images, mais un rapport social entre des personnes médiatisées par des images. Rapport social. C'est important ça.
Oui, c'est-à-dire que je crois que ça s'est développé encore plus. Ouais. C'est-à-dire que chacun est le spectacle de l'autre. Ça coupe aussi la vision de certains sociologues aujourd'hui. C'est-à-dire que effectivement, on est tout le temps en train de jouer.
Alors, il note aussi l'importance, même au début des années 60, des experts, de ce qu'il appelle les experts, entre guillemets.
Oui, alors c'est assez drôle parce que il parle des experts. Alors il est revenu en 92, si je ne me trompe pas, sur ce livre avec notes sur la société des spectacles, et il parle des experts, alors qui parfois sont des experts médiatiques, c'est-à-dire qui peuvent parler de n'importe quoi, et il cite notamment les gens qui donnent la météo, et je pense qu'il s'inspire à ce moment-là de Alain Gillot-Pétré, qui était le présentateur de la météo, et qui, à cause du lancement de la 5, est devenu une sorte d'animateur qu'on va retrouver justement dans Psycho.
Et qu'on va entendre tout à l'heure, Guy Debord, qui dit à propos des experts, de l'expert, et vous le citez dans votre livre, François Joss, l'expert qui sert le mieux, c'est bien sûr l'expert qui ment. Ceux qui ont besoin de l'expert, ce sont pour des motifs différents le falsificateur et l'ignorant.
Oui, c'est-à-dire que normalement.
Et Dieu sait si des experts. Il y en a aujourd'hui.
Alors c'est intéressant parce que c'est une sorte de fil rouge de mon livre que je ne savais pas trouver au début. C'est que finalement, cette méchanceté est une sorte d'arme ou de moyen, quelque chose qui se trouve entre l'expert et le, je sais pas comment l'appeler, le peuple. Je crois que oui, Guy Debord dit la plèbe, Rakiri dit la masse. Aujourd'hui, on dit le peuple. Mais enfin, en tout cas, c'est toujours signe d'une sorte de malaise entre ces qualificatifs et les élites.
François Jost, nous allons faire une pause, écouter quelques nouvelles du monde et on se retrouve dans 3 minutes pour continuer à parler de la méchanceté à la télévision notamment. À tout de suite.
Idée. Suite.
Cette semaine, dans ce magazine dédié aux idées, à la réflexion sur nos sociétés, leur histoire, leur évolution, nous parlons de la méchanceté à la télévision et sur Internet, notamment avec notre invité, le sémiologue et sociologue François Jost, qui vient d'écrire « La méchanceté en acte à l'ère numérique », un livre publié au CNRS Éditions. Merci François Jost d'avoir commencé à nous expliquer dans la première partie ce glissement vers la méchanceté à la télévision. Et là, nous y sommes de plein pied, si j'ose dire. Je vous propose d'écouter un mixage de 3 émissions différentes qui symbolisent ce qu'on appelle la télé-réalité aujourd'hui et son évolution. Avec d'abord un passage de l'émission Psycho, créée en 1983, donc les temps héroïques dans ce domaine. Love Story ensuite en 2001. Et une émission plus contemporaine, L'amour est dans le pré, en 2018. Donc, actuel, je vous propose d'écouter ce mélange de tout ça, concocté, fabriqué par Vanessa Rovensky.
Bonsoir. Enfonçons gaiement une porte ouverte. On n'a encore jamais rien trouvé de mieux pour vivre à deux qu'un couple. Institution, entre guillemets, qui résiste à tous les séismes de l'histoire et de la société. Dans le parcours d'une vie, le couple peut être un moteur bien huilé qui tourneront, mais quelquefois la mécanique se grippe. Vous êtes bien placé pour le savoir, nous sommes tous bien placés pour le savoir, personne n'y échappe vraiment. C'est là le thème de cette émission, comprendre ce qui ne marche pas dans le couple pour comprendre comment ça marche, un couple. Eh bien, nous avons un couple ce soir. Un couple invité, Michel et Viviane, qui rencontrent des difficultés dans sa vie à deux, qui acceptent d'en parler pour briser le huis clos.
On est mariés donc depuis 12 ans maintenant. On a vécu maritalement 3 ans auparavant et on a fait comme tous les jeunes amoureux, on a vécu de notre merveilleux amour du départ sans s'apercevoir qu'on avait, ou sans prendre conscience plutôt, qu'on avait un problème mécanique, purement mécanique. Bon, maintenant, il est pratiquement amenuisé, mais il est toujours un tout petit peu existant. C'est-à-dire que mon mari avait un problème d'éjaculation précoce.
Après, on dit Love Story, d'accord ?
Allez, 1, 2, 3, Love Story !
11 célibataires coupés du monde.
Philippe.
Laure.
Aziz.
Loana.
Jean-Édouard.
Julie.
Sylvie.
Kimi.
Fabrice.
Kenza.
Et Christophe.
Filmé dans un loft de 225 mètres carrés, 24 heures sur 24, par 26 caméras et 50 micros. Dans 9 semaines, ils ne seront plus que deux. Qui sera le couple idéal? C'est vous qui décidez.
Ouais, parce que t'es pas intéressante, on voit pas tes seins. C'est pas intéressant, mais c'est vrai.
Merci.
Non mais, t'es pas intéressante, on voit pas tes seins.
Ah oh, putain, regarde comment il est canon, mec, là. Ah oh, merde, c'est moi. Je suis con.
J'ai trouvé la personne que je cherchais. J'ai contacté au téléphone pendant longtemps et quand elle est venue chez moi, on avait déjà des sentiments l'un pour l'autre. Avant de se voir.
Boulot.
Ah oui.
C'est l'amour par Internet?
Non, par téléphone.
L'amour platonique. L'amour platonique.
Au téléphone, on avait déjà des sentiments l'un pour l'autre.
Ah ouais?
Et alors, la première fois qu'elle devait venir chez moi, on avait peur si bien l'un que l'autre.
Ah bon?
Ah oui, parce qu'on s'est dit, on a des sentiments l'un pour l'autre et si en nous voyant, ça marche pas.
Ah oui.
On va être déçu. Et ça s'est concrétisé.
Et vous avez des projets d'habiter ensemble et tout ça?
Bah oui, normalement l'été.
Sera bientôt invité à un mariage,
alors. Ah, c'est bon.
Depuis ce jour, nous avons justement appris une très bonne nouvelle. Eric va bientôt être papa.
La vie est belle dans le monde de la télé-réalité. François Josse, vous écrivez dans votre livre l'évolution des reality shows où un couple livrait sa vie au public vers la télé-réalité où la vie télévisuelle des candidats dépend du téléspectateur laisse à penser que l'hypothèse de la compassion qui avait prévalu dans les années 90 a négligé la part de méchanceté qui pouvait s'y mêler.
Oui.
Quelle évolution hein, entre le psycho ou un couple de vrais gens, parce que ça c'est une expression qui revient souvent dans l'univers de l'audiovisuel, les vrais gens expliquent leur couple et cette bataille avec Love Story par exemple.
C'est-à-dire que là, dans les trois extraits qu'on a entendus, ça montre l'évolution dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que dans un premier temps, on montre ce qui devrait être caché, c'est-à-dire que le couple vient témoigner de ses difficultés sexuelles devant un psychanalyste, Serge Leclerc, qui était un psychanalyste reconnu lacanien, et donc expose ce qui devrait rester dans le silence d'un cabinet à Love Story. Et puis l'amour est dans le pré, où ça continue, cette exposition continue, mais avec quelque chose qui s'ajoute avec Love Story, c'est le fait que les spectateurs peuvent juger, et donc non plus seulement juger, mais justement condamner. C'est-à-dire qu'il suffit, c'est contemporain du téléphone portable qui s'étend aussi, et il suffit de faire le 1 ou le 2 pour que la personne soit exclue ou non. D'ailleurs, à l'époque, ce terme d'exclusion avait énormément choqué, ce qui a fait que les producteurs, au bout de quelques temps, ont parlé de nomination de ceux qu'on voulait garder et non plus d'exclusion. Mais on voit comment le jugement, c'est la deuxième étape, si vous voulez, qui s'introduit et qui est, le facilitateur ou l'élément qui permet à la méchanceté de s'introduire véritablement dans ces spectacles.
Mais vous me disiez, en écoutant ces différents passages, François Joste, que ce couple-là qu'on entend dans la première émission, Psycho, a avoué après avoir dû reconstituer une histoire qui, pour eux, n'en était plus une.
Absolument. Quelques jours plus tard, dans une émission dont je crois qu'elle s'appelait Chaud devant ou quelque chose comme ça, le couple est venu dire qu'en fait il avait été recruté par une sorte d'association à laquelle ils appartenaient et qu'en fait ils étaient de nouveau ensemble mais qu'ils avaient rejoué leur histoire. Ce qui montre bien que c'est pas seulement qu'on fait un spectacle des gens mais que les gens vraiment ont envie de se donner en spectacle et ça continue, j'allais dire, encore et encore.
Mais au départ l'attention était assez noble parce que moi je me souviens au tout début des années 80 vous y faites référence, François Josse, dans votre livre, il s'agissait vraiment pour les initiateurs de la télévision de l'époque de montrer en fait la France telle qu'elle est. La population française.
Oui, c'est vrai que ça correspond aussi à une période qui est le début de la gauche au pouvoir, où on
qui voulait révolutionner l'univers de l'audiovisuel.
C'est vrai.
Et qui l'a d'ailleurs fait en
qui l'a fait en partie d'ailleurs, parce qu'il y avait un autre ton. Ouais. Mais c'est vrai que ça part du principe que le cordon ombilical, comme on disait à l'époque, n'a pas été coupé entre le gouvernement et la télévision, et que là, tout d'un coup, les Français plus anonymes vont pouvoir venir s'exprimer. Moi, c'est une des raisons qui m'a amené à écrire sur cette période d'autres livres, parce que, précisément, j'ai mis en doute que les vrais gens, comme on dit, ne se fussent pas exprimés avant. On voit, dès le début de la télévision, des vrais gens comme les mineurs, comme des agriculteurs, qui sont mis en scène dans leur vie quotidienne et non pas simplement pour trouver, comme dans l'amour et dans le pré, une compagne, mais qui parlent de leur travail. Donc il y a eu un glissement qui s'est accentué avec la télévision privée où on a cherché vraiment à avoir un public bien ciblé.
Ah, c'est ça, effectivement, vous faites bien de rappeler, François Jeux, c'est que ces émissions de télé-réalité se sont développées avec le développement des télévisions privées. C'est-à-dire qu'il y a des télévisions dont l'objectif est de faire le maximum d'audimat pour engranger le maximum de publicité. Les deux sont liés.
De publicité et aussi quelque chose qui devient tout à fait nouveau avec Love Story, c'est ce qu'on appelle la call TV ou quelque chose comme ça, c'est-à-dire le téléphone.
Ah oui.
Le téléphone joue un énorme rôle à l'époque.
Les lignes surtaxées.
Et c'est des lignes surtaxées qui rapportent de l'argent parfois pour certaines émissions plus que la publicité.
Et vous citez pour illustrer ce nouveau genre d'émission. Michel Foucault qui dit ceci: juger, je veux juger, c'est fou ce que les gens aiment juger, ça juge partout, tout le temps, sans doute est-ce l'une des choses les plus simples qui soit donnée à l'humanité de faire. Et effectivement, la télé joue là-dessus.
C'est ça, je crois que la
une certaine forme de télé
parfaitement bien compris que le jugement était quelque chose qui pouvait se répandre partout. Et d'ailleurs, je cite une autre phrase de Michel Foucault qui dit que à chaque fois qu'il lit comme ça des jugements, il imagine des morts devant lui et que ça devient une sorte de grand cimetière parfois quand on lit les collègues entre eux ou certains philosophes entre eux.
Donc glissement de ces émissions supposées montrer les vrais gens entre guillemets vers des émissions où on juge les gens, et la période d'aujourd'hui est marquée par une violence, une méchanceté de plus en plus grande dans ces émissions.
Oui, c'est-à-dire que...
Une sorte de surenchère.
Oui, parce que c'est devenu un principe. C'est devenu un principe, comme on dit, un format d'émission. Aujourd'hui, alors ça commence avec des émissions comme Un dîner presque parfait, où des gens s'invitent entre eux et se notent. C'est-à-dire qu'ils notent la décoration, ils notent le plat, ils notent l'accueil, ils notent l'attraction qu'il y a eu, etc. Et ce qui est d'autant plus bizarre, c'est qu'ils se notent entre eux, alors qu'on sait bien que justement, un professeur sait que si on est lié à la notation, il peut pas noter. Donc les gens se notent entre eux et
dans une mise en scène toujours.
Dans une mise en scène, oui. C'est ça. Et dans une mise en scène où plus on va aller contre les normes de la politesse ou de la courtoisie, plus on va être jugé authentique. Et c'est un des problèmes fondamentaux, c'est que effectivement toutes ces émissions entraînent des comportements parfois absolument insensés, comme une femme qui dit que un mets ressemble à du vomi, ou un autre qui, apprenant qu'il y a des cerises au sirop dans son dessert, quitte la table. Mais tout ça, donc qui va au-delà de ce que normalement on fait quand on est invité chez quelqu'un, ça signifierait que c'est plus authentique. Oui, on espère que normalement on fait pas ça chez ses amis.
Alors, ce qui est notable, François Jean, c'est que ces émissions de télé-réalité ont déteint en fait sur le reste des programmes, de certains programmes, même sur les émissions politiques. Écoutez cet extrait d'une émission politique qui date de l'année dernière, 2017, en pleine campagne présidentielle, c'était sur France 2, avec sur le plateau François Fillon, candidat, donc déjà aux prises avec quelques problèmes dus à des révélations du Canard enchaîné. François Fillon, donc, et aussi l'écrivaine, la romancière Christine Angot, qui échange, si je puis dire, sur fond d'allusion qu'a fait François Fillon dans cette émission, allusion au suicide de Pierre Bérégovoy en 1993. Écoutez, c'est aussi édifiant.
Voilà. J'ai fait une erreur.
Les applaudissements,
on n'est pas dans une arène, s'il vous plaît.
J'ai reconnu, j'ai fait une erreur.
Mais le reculez vraiment devant rien.
Mais cette accusation, c'est incroyable.
Mais vous
arrivez ici en procureur.
Attendez,
vous osez me traiter de malhonnête.
Ah oui, je vous traite de malhonnête.
Ben moi alors,
vous savez pourquoi? Parce que vous savez ce que c'est le pompon de toute cette histoire.
C'est
le coup de Bérégovoy que vous nous avez fait tout à l'heure. Ça passe pas, monsieur.
Et ben moi, madame, pardonnez-moi.
Pourquoi, président Angot, pourquoi? Expliquez-vous.
Pourquoi ça passe pas? Mais parce que là, il y a tous ces fans qui, voilà, ils font ce qu'ils veulent, hein. Mais le coup de Bérégovoy, monsieur, ça choque les gens. Ma question, si j'en ai une, elle est la suivante. Est-ce que vous nous faites un chantage au suicide?
J'ai pas dit ça, madame. Vous ne pouvez pas comprendre que je puisse être blessé par des accusations qui sont des accusations mensongères.
Oh, c'est triste. Oh, vous
regardez,
me faites de la peine.
Regardez, voilà. Oh, ben moi, vous m'en faites.
Il est blessé.
Oui, absolument.
Il est blessé,
madame.
Monsieur.
Absolument.
Non, s'il vous plaît. C'est un débat ici. C'est une enceinte où on débat tranquillement. Donc, vous applaudissiez, c'est limite. Mais s'il vous plaît, pas d'invective à l'égard des invités.
Alors, ce qui peut paraître surprenant, François Joss, c'est la réaction de David Pujadas, le présentateur de l'émission, qui feint de s'étonner que ce duel, ces propos de Christine Angot, puissent susciter des réactions dans le public.
Oui, puis qui rajoute que c'est un débat, alors que précisément ça n'est pas du
tout un débat. Il utilise le mot arène, hein, il dit ce n'est pas une arène.
Oui, c'est pas mais on retrouve...
Une antiphrase.
Oui, on retrouve à peu près la même chose que pour Yann Moix. D'ailleurs, maintenant, ils sont tous les deux snipers, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils sont là pour tuer, hein, d'une certaine façon, dans la mission de Laurent Ruquier. Ici, on a un exemple vraiment... Bon, toute référence politique mise à part, hein, je veux dire, savoir qui a raison, bon, etc., mais mais on voit bien qu'il y a une sorte de lynchage qui relève donc effectivement de la reine, et que le spectateur est supposé, ou sans doute, jouit un peu de ce lynchage. C'est-à-dire qu'on voit bien aujourd'hui, pour d'autres cas, comment, quand un bashing commence, il continue très très fortement, et que c'est une chose dont on n'a pas encore parlé, mais qui est importante finalement dans mon livre, c'est que tous ces actes de méchanceté n'existeraient pas si le spectateur n'y prenait pas du plaisir. Et alors qu'on prenne le philosophe du 18e Burke, qui parle du delight à propos de la tragédie, j'aime beaucoup cette phrase où il dit mais pourquoi finalement prend-on autant de plaisir au malheur des autres dans la tragédie? Donc il le remarque déjà pour la fiction, mais c'est vrai encore plus pour les genres du réel. Il y a aussi cette phrase que je cite, que j'aime beaucoup, de Jean Kelevitch, qui dit ton malheur est mon bonheur, et c'est vraiment là-dessus que repose ce genre de soliloque de la part de Christine Angot, c'est-à-dire elle représente ce que je voudrais faire, c'est-à-dire tuer symboliquement François Fillon, qui à ce moment-là est déjà assez blessé.
François-Joas, vous avez utilisé un mot qui est très à la mode aujourd'hui, c'est le mot bashing. Où là le ridicule est devenu une arme de, là je reprends votre terme, de destruction massive. Vous parlez beaucoup dans un des chapitres de votre livre de François Hollande, qui a dû faire l'objet de beaucoup de couvertures ridicules, le montrant en ridicule. Ça, je dirais que ça peut être classique, mais il y a d'autres formes de bashing qui sont assassins.
Alors, vous avez raison, j'ai... Depuis que j'écris, je crois, j'ai envie d'essayer de donner du sens au mot. Et ce mot bashing, il est tellement répandu que je voulais essayer de voir, en cherchant aussi chez les chercheurs qui ont travaillé là-dessus, ce qu'on appelait vraiment le bashing. Et il y a deux choses. D'une part, il est plurisémiotique, c'est-à-dire qu'il a différents instruments. Il passe par l'image, il passe par la parole, il passe par les commentaires, etc. Et d'autre part, le bashing suppose la répétition, l'acharnement. C'est-à-dire, c'est pas un acte de méchanceté isolé, c'est un acharnement. Alors j'ai pris deux exemples, effectivement, qui sont les couvertures qui ont couvert les quinquennats de Sarkozy et de Hollande, parce que mon propos n'était pas de défendre un homme plutôt que l'autre. Et je montre effectivement que chez Hollande, la plupart des surnoms qui lui ont été attribués par ses amis vont conditionner tout son quinquennat, que ça va être repris sans arrêt. Il y a par exemple un présupposé de mollesse qui vient de son physique, qui va être constamment repris. Et chez Hollande, dès la première couverture, quelques semaines après son élection, il y a une photo où il est à côté de Valérie Trier-Weller, ou plutôt Valérie Trier-Weller est un petit peu au-dessus de lui, elle est debout tandis qu'il est assis, et le titre c'est « Qui gouverne vraiment ?» ou quelque chose comme ça. Et pendant tout son quinquennat, l'Express, va montrer que son problème, c'est les femmes. Et que jusqu'à un titre où il va y avoir les cocus de Hollande, qui ne parlent pas des femmes, mais qui parlent de nous.
Ce qui est intéressant, François Joste, vous le soulignez aussi dans le livre, c'est que ces deux présidents ont quand même été des présidents hors normes, dans la mesure où leur vie privée les a rattrapés dans les deux cas. Donc ce bashing s'est nourri aussi de cela.
C'est ça. Oui, alors c'est vrai que je fais référence à cette théorie qui est assez connue de l'historien Kantorowicz, qui parle des deux corps du roi.
Ah oui.
C'est-à-dire qu'il y a le corps symbolique, celui l'État c'est moi, disait Louis XIV, et puis le corps physique qui pouvait donner lieu justement à ce qu'on assiste à son coucher ou même à sa mort, comme dans un film récent l'a montré. Et le problème des présidents de la République, ça a été de s'humaniser pour contrer cette critique qu'il aurait faite sans arrêt, de se réfugier dans les ordres de la République. Ça a tellement marché, j'allais dire, chez Sarkozy, que ça a donné « Carla et moi, c'est du sérieux », que ça a donné la fameuse photo de François Hollande avec un casque, et que finalement, ils ont été réduits à leur corps.
Il y a un peu de télé-réalité dans tout ça, quand même.
Il y a toujours le fait que ils sont réduits à du visible, à de l'image visible. Alors corps, ce qui fait que Hollande, finalement, c'est des lunettes embuées venant de l'île de Sein, c'est un casque sur la tête et c'est un pédalo. Ce qui est terrible, parce que ça aboutit dans un journal comme Valeurs Actuelles à ce qu'on représente Hollande par une simple métaphore d'un flanc qui s'affaisse.
Ouais. Là, on sent venir un peu le populisme, là. Hein,
oui.
La remise en question des élites, quelles qu'elles soient, à travers le président de la République, mais pas simplement.
Et oui, c'est extrêmement compliqué d'ailleurs pour le président de la République, on le voit, mais on voit comment par exemple quelqu'un comme Emmanuel Macron a... qui avait mis sa vie privée très en avant. Il y a eu 5 couvertures de Paris Match avec lui et sa femme, avant son élection. Après son élection, il a tout de suite changé en marchant d'une façon cérémonieuse, martiale et lente pour aller à la pyramide du Louvre. Et on a remarqué, par exemple, que François Hollande, quand il est arrivé dans la cour de l'Élysée pour prendre ses fonctions, a mis 30 secondes à la traversée, alors que Macron a mis une minute. Ce qui est montré qu'on prenait son temps, que c'était lui le maître du temps. Et donc, il a quand même mis de côté sa vie privée, ce qui lui permet d'être beaucoup moins bâché.
Alors, jusqu'ici, on a beaucoup parlé de la télévision, on a parlé aussi de certains journaux, François Georges. Il va de soi que l'Internet est aussi pourvoyeur de toute cette méchanceté, évidemment, oui. Et les réseaux sociaux, etc.
Oui,
etc.
Alors, parce qu'il y a une troisième chose dont on n'a pas parlé, effectivement, à côté de cette mise en spectacle de ce jugement, il y a l'anonymat. Et ce qu'apportent véritablement les réseaux sociaux, c'est cet anonymat qui permet à n'importe qui de descendre n'importe qui et de la façon la plus violente. C'est sans doute ce qui a accentué la méchanceté aujourd'hui, puisque en toute impunité, on peut mettre en doute l'honneur de quelqu'un ou l'honnêteté de quelqu'un.
Alors, les auditeurs doivent se poser peut-être la question, se dire, oui, la méchanceté, ça a toujours existé, les humoristes, ça a toujours existé, ceux qui se moquent, etc., des gens, ça a toujours existé. Et pour illustrer, pour qu'on en parle un peu, et pour illustrer cela, je propose d'écouter, pour conclure cette émission, un grand maître de l'humour, l'humour noir, notamment, Pierre des proches. Écoutez-le, c'était en 1988, dans une émission qui s'appelait L'assiette anglaise, présentée par le regretté aussi Bernard Rapp. Écoutez-le parler notamment, enfin surtout, essentiellement, de Marguerite Duras.
C'est-à-dire que je ne comprends pas tout, et ça m'énerve. Ça m'énerve. Il y a certains bouquins, j'arrive, mais enfin, je précise aussi, parce qu'il faut être honnête, dans ce spectacle, que Marguerite Duras n'a pas écrit que des conneries. Elle en a aussi filmé. Donc, c'est quand même assez ouvert.
Ouais, c'est très clair. Vous la traitez d'apologiste sénile.
Des infanticides ruraux. Bah oui, elle a fait un papier dans Le Monde.
Dans l'IB.
Dans l'IB, oui, ouais. Je confonds toujours. C'est celui qui est lisible. C'est celui qu'il faut avoir sous le bras en ce moment, c'est l'IB.
En principe, qu'est-ce qu'on dit, ouais. On peut avoir l'autre sous l'autre bras.
Oui.
Alors ça, François Jean, c'est de la méchanceté aussi.
Oui, c'est de la méchanceté. C'est vrai que j'ai du mal à critiquer vraiment, parce que c'est vrai que dans ce livre, je montre que la méchanceté ad hominem ou ad feminem est quand même à éviter. Mais ici, je pense que on est au-delà, parce que c'est le retournement de sa phrase qui est drôle. C'est finalement son style qui est drôle plutôt que simplement ce qu'il dit. Et puis il fait allusion à quelque chose que l'auditeur aujourd'hui a sans doute peu avoir oublié. C'est que Marguerite Duras, dans cette fameuse affaire Grégory dont on reparle périodiquement, avait dit en arrivant dans le village de cet enfant et en voyant la mère, coupable, forcément coupable. Eh oui. Donc c'était quand même une grosse connerie. Ouais. Comme le dit une des proches.
Alors, vous parlez de ces humoristes qui sont méchants aujourd'hui, très méchants même, et qui fondent leur art sur cette méchanceté, notamment Stéphane Guillon.
Oui. Bah, Stéphane Guillon, alors j'ai fait quelque chose d'un petit peu plus quantitatif. Je me suis intéressé à repérer sur un an toutes les personnes dont il parlait. Ouais. Et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment des têtes de Turc, que c'était toujours les mêmes et que c'était au nom de stéréotypes très 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 forts. Alors pour le sexe, c'est DSK, pour la malhonnêteté, c'est Balkany, pour etc. Et finalement, c'est un humour qui est assez sexiste très souvent. Il met en avant sans arrêt les valeurs masculines, avoir des couilles, entre guillemets, des choses comme ça.
Alors revenons sur cette méchanceté. Je reviens à ce dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que cette méchanceté est signe d'un malaise, ou est-ce que ça fait partie d'un malaise social global, ou est-ce que ça fait partie du jeu normal de l'audiovisuel de nos jours?
Non, je pense que d'une part, elle est plus visible, ça c'est clair. Mais
est-ce que c'est un effet de mode, ou est-ce que c'est quelque chose de plus profond?
Non, je pense que c'est quelque chose de plus profond, et que justement l'intérêt d'étudier ce genre de choses, c'est que c'est aussi un symptôme, et que à force d'observer ce genre de choses, parfois on pourrait peut-être prévoir la suite et s'alerter, parce que il est clair que dans cette méchanceté sur Internet notamment, il y a un malaise qui est celui de ce qu'on a appelé le peuple, qui se sent totalement coupé de ses élites et qui ne comprend pas pourquoi des penseurs ou des artistes, etc., auraient le droit de s'exprimer plus que d'autres. Et c'est vrai que dans les extraits que vous avez montés, que ça soit Yann Moix ou Christine Angot, on se dit parfois, mais de quel droit des gens comme ça viennent descendre une pauvre écrivaine qui vient de présenter un livre.
Ah, vous écrivez, les actes de méchanceté donnent le spectacle du dégoût des autres, version moderne de la lutte des classes.
Oui, alors là, je fais allusion aussi à ces émissions dont on a parlé tout à l'heure, comme Un dîner presque parfait ou Bienvenue chez vous, etc., où les gens se notent où le producteur s'arrange toujours pour mettre quelqu'un de, disons, d'un peu collet monté face à quelqu'un de très exubérant pour qu'il y ait une lutte, parce que ces gens-là souvent pensent que leur goût est naturel, qu'il est normal d'aimer les escargots, par exemple, et découvrent avec stupeur que quelqu'un ne peut pas aimer les escargots, et donc découvrent finalement qu'il y a des différences de goût qui sont pas naturelles. Et donc là, il y a vraiment des émissions qui mettent en scène que le goût de l'un est le dégoût des autres. Et donc, pas du tout quelque chose de réconcilié, mais quelque chose de constamment opposant les gens aux autres.
Merci François Jost, il faut lire votre livre qui s'intitule « La méchanceté en acte à l'ère numérique ». Il est publié au CNRS et édition et continue à étudier ce monde redoutable finalement de l'audiovisuel. Idée réalisée par Vanessa Rovansky, évidemment vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante.
Idée au pluriel @rfi.fr.
Idée, un magazine que vous pouvez écouter sur l'appli RFI et podcaster sur le site de la radio www.rfi.fr. Je vous retrouve samedi prochain pour une semaine d'actualité et dimanche pour de nouvelles idées. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.